Bonsoir et bon début de semaine à tous. Le monde célèbre ce lundi 21 septembre 2020 la journée internationale de la paix. En RDC, le pays fait face à plusieurs groupes armés nationaux et étrangers qui commettent des crimes et sèment l'insécurité dans sa partie est. Que faire pour instaurer une paix durable dans l'est de la RDC? C'est notre thème de ce soir. Pour en parler, je reçois dans cette émission pour le débat Juvenal Mounoubo Moubi, il est député national élu de Yaoundé au Nord Kivu. Il est cadre de l'UNC, parti membre de la coalition au pouvoir. Il est aussi rapporteur de la commission défense et sécurité à l'Assemblée nationale. Juvenal Mounoubo, bonsoir.
Bonsoir Madame Kelly, bonsoir à tous les auditeurs.
Mouindo Nzangi, député national élu de Goma et Butembo au Nord Kivu, il est cadre du parti politique MS, membre de la coalition Lamuka. Mouindo Nzangi, bonsoir.
Bonsoir, bonsoir à tous les auditeurs de Radio Kapi.
Et Onespor Sematumba, il est analyste pour la région des Grands Lacs au sein des International Crisis Group, ICG en sigle, organisation internationale qui étudie les conflits au niveau mondial. Monsieur Sematumba, bonsoir.
Bonsoir madame, bonsoir chers auditeurs.
Vous êtes nombreux à nous envoyer vos réactions, c'est le cas de Dieu merci. Elanga depuis Kisangani dans la province de la Tchopo. On peut faire toutes sortes d'analyses, mais il n'y a pas de volonté. Mais s'il n'y a pas de volonté politique de pacifier l'Est, nos analyses seront vaines. Car il y a eu beaucoup de mécanismes pour restaurer la paix, mais ils n'aboutissent toujours pas. Il faut une volonté ferme pour pacifier la partie Est de la RDC. Merci de nous suivre partout en RDC sur la fréquence FM. Et pour vous qui êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radioocapi.net. Bienvenue à tous dans votre magazine.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Alors que le monde célèbre la Journée internationale de la paix ce lundi 21 septembre 2020 sous le thème « Façonner la paix ensemble », à Béni, ville et territoire, cette date tombe dans un contexte de tueries à répétition. Le dernier cas en date, hier dimanche, dans la nuit, au moins 11 personnes ont été tuées, d'autres portées disparues, 3 maisons incendiées après une nouvelle attaque attribuée aux rebelles ougandais de l'ADF. Conséquence, les activités socio-économiques sont paralysées dans la région et les mouvements des populations vers Oicha et les villages voisins restreint. Des précisions avec vous, Marc Fimbo.
Les sources locales dans la région racontent que c'est aux environs de 21h que ces rebelles ont fait incursion dans la localité d'Embao, précisément dans les cellules Kitoro, Majingo et Mangoko. Selon le chef du village Vemama Vivi, au moins 11 personnes, notamment un militaire FRDC et 10 civils ont été tués. 3 maisons ont été incendiées et les petits bétails emportés. Ces sources ajoutent aussi qu'une dizaine de civils sont portés disparus, dont 2 femmes qui ont pu s'échapper ce matin. Les rebelles, après leur forfait, auraient pris la destination du village Abukanyila, vers la partie ouest de la route nationale numéro 4. C'est lundi matin, toutes les activités ont tourné au ralenti à Mbao, Oisha et dans les villages Vemama Vivi, où on enregistre un nombre important de déplacés. Si cette tuerie intervient quelques jours seulement après le passage du chef d'état-major de l'armée dans la région, les chefs de ces entités soulignent que pour faire face à la situation, il faut un bon mécanisme de renseignement. Gervais Makofi Bokuka, chef du village Vemama Vivi.
Les pères de tout possible de multiplier des services de renseignement civil aux côtés de l'armée pour les donner des informations au cas réel. Je continue à demander à nos propres civils d'être ouverts et de collaborer avec leur armée.
Tous nos efforts pour avoir la réaction de l'armée n'ont pas abouti. Pendant ce temps, les corps des victimes sont toujours à l'hôpital général de Oisha. Beni, Marc Marofimbo, Radio Kapi.
Rendons-nous en Ituri où des tirs nourris d'armes ont été entendus pendant plusieurs heures, la nuit de dimanche à ce lundi, dans la ville de Bunia, ce qui a créé la panique dans les différents quartiers où les habitants croyaient à l'incursion des miliciens qui quadrillent le chef-lieu de la province depuis plusieurs semaines. La population demande au gouvernement de garantir la sécurité qui est très précaire dans la ville. Isaac Remoyope nous en dit plus.
Selon les témoignages de certains habitants, c'est peu avant minuit et jusqu'à vers 3 heures du matin que des échanges de tirs ont été attendus dans certains quartiers de Bounia, dont Soukissa et Bankoko. Ces tirs nourris ont réveillé les habitants dans leur sommeil. Tous étaient aux aguets pour se sauver, croyant à une nouvelle incursion des miliciens de la CODECO ou même de la Force patriotique et intégrationniste du Congo, FPIC, qui sont signalés aux alentours de la ville. Pour la population de Bounia, la sécurité n'est pas garantie, suivant les ras-le-bol d'un habitant.
J'ai commencé à écouter des coups de feu par la sécurité n'est pas garantie parce que la dernière fois on a vu les militaires CODECO ici vraiment passer, même ici par ici, en formant campagne.
Selon la police, ces coups de balles ont été tirés par un bandit au quartier Soukissa et des militaires au quartier Bankoko. Tous ont été maîtrisés par les éléments de la police qui étaient en patrouille. Le commandant de la ville rassure la population que toutes les dispositions sont prises pour empêcher l'incursion des miliciens dans la ville. Le commandant de la PNC en ville de Bounia, le major Abeli Mwangu.
C'est un spécialisé, travaille nuit et jour pour en tout cas garantir la sécurité de la ville. À chaque fois il y a des tirs, on pense que c'est encore une fois les CODECO qui est en train de la ville. Il n'en est pas question. D'ailleurs, toutes les dispositions sont déjà prises pour éloigner ces miliciens dans la ville de Bounia.
Bounia, Isaac Remoyope, Radio Kapi.
Juvenal Mounoubo Moubi, je rappelle que vous êtes député national élu de Walika, Léonore Kivu. Vous êtes cadre de l'UNC, parti membre de la coalition au pouvoir. Vous êtes aussi rapporteur de la commission défense et sécurité à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que cette journée représente pour vous?
Alors, merci beaucoup. Je voudrais tout d'abord vous saluer et saluer les collègues Nzangi, Mouindo et saluer également M. Onesfor Sematumba. Alors, cette journée devrait être une occasion, en tout cas pour le Congo, de faire l'évaluation de la situation sécuritaire à l'Est qui, je dois l'avouer, je vous l'avoue, elle est très très préoccupante, elle est précaire. Un auditeur l'a dit d'ailleurs tout à l'heure. Donc, c'est une situation préoccupante et comme vous le savez, ça, sans paix, ça va être difficile de développer le pays. Malgré les potentiels énormes, sans la paix, ça sera vraiment difficile. J'ai découvert la zone de Bounia dernièrement. J'y étais le 10 septembre. Et j'ai trouvé que c'est une zone agro-pastorale. C'est une zone de potentialité, mais il y a l'insécurité. À cause de l'insécurité, c'est difficile de développer cette zone. Et pourtant, la population, elle est dynamique. Un peu comme à Beni, à Butembo, à Goma. Mais c'est une population qui n'a besoin que de la paix. Donc, une occasion comme celle-ci, la Journée internationale de la paix, c'est une occasion, en fait, de réfléchir, de faire un examen de conscience, d'essayer de voir les responsabilités à différents niveaux. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait à ce que la paix reste toujours une denrée rare en République démocratique du Congo?
Justement, j'allais vous poser cette question. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on n'arrive pas toujours à restaurer la paix en RDC malgré tous les mécanismes mis en place?
D'abord, c'est les faiblesses qu'on a toujours constatées et déplorées au niveau de la réforme du secteur de sécurité. Vous savez, on n'a pas fait assez d'efforts par rapport à la réforme de l'armée, la réforme de la police, la réforme des migrations et des renseignements. Et là, c'est des problèmes qui ne datent pas d'aujourd'hui ou d'il y a une année ou deux ans. Donc, c'est des problèmes qui se pérennisent. C'est depuis plusieurs années, on n'a pas mis assez de sérieux, si je peux le dire comme ça. On n'a pas mis assez d'efforts dans la réforme du secteur de sécurité. C'est ce qui fait que nous avons certes plusieurs officiers militaires, mais moins des hommes de troupes. Par exemple, à Bounia, nous avons au moins sept officiers militaires généraux, mais on ne comprend pas pourquoi on continue à manquer la paix. Et donc, c'est ça, on n'a pas mis beaucoup de sérieux. Ce qu'on devrait faire, c'est quoi? On devrait d'abord les équipements, la formation, mais aussi motiver les militaires. Parce que les militaires, souvent, il arrive des fois qu'ils n'ont pas suffisamment à manger au front, ils ont des familles. C'est à ce niveau-là. La réforme de l'armée, c'est l'ensemble. C'est pas seulement la formation des militaires ou l'équipement. La réforme de l'armée, c'est aussi la motivation. Et il faut penser aux conditions sociales du militaire. Le militaire qui n'est pas seul, le militaire qui a sa famille également. Et il faut aussi accroître la capacité d'anticipation de nos forces armées. Parce qu'on ne comprend pas pourquoi les rebelles doivent chaque fois lancer des attaques, surprendre les forces armées. Et pourtant, le rôle de l'armée, c'est de travailler en amont, justement, pour constituer les renseignements, faire de l'anticipation. Et pour faire de l'anticipation, il faut absolument améliorer les relations civilo-militaires, parce que les renseignements, on les obtient à partir de la population aussi. Raison pour laquelle j'appelle à une collaboration étroite, en tout cas, entre les forces de sécurité et la population locale.
Est-ce que vous pensez qu'il n'y a pas cette collaboration entre les deux, Juvenal Mounoubo? Vous pensez qu'il n'y a pas collaboration entre les forces de la RDC, les forces armées de la RDC et la population?
En tout cas, il n'y a pas encore cette collaboration qu'on aurait souhaité. Parce que dans plusieurs endroits, les populations considèrent les forces armées comme des personnes qui sont envoyées là-bas dans des éléments des forces armées, mais qui n'ont pas vraiment une grande préoccupation de sécuriser les gens. Il y a des endroits où, si vous voyez la tenue du policier, du militaire ou du policier, ça fait peur, vous prenez une autre direction. Donc, on assiste encore à des situations comme ça. Donc, au lieu que ce soit la présence du militaire qui rassure, la présence du militaire ou du policier jusque-là ne rassure pas la population civile ou les habitants. Mais aussi, il y a des militaires qui considèrent encore dans plusieurs endroits la population locale qui vivent dans les villages, un peu comme des gens qui abritent, cachent les éléments des groupes armés. Alors on est un peu dans une situation de méfiance où on se suspecte, et c'est justement à ces niveaux-là qu'il faut travailler pour rapprocher les uns des autres. Parce que sans renseignement, ça va être difficile d'accroître la capacité d'anticipation et ça va être difficile de restaurer l'autorité de l'État.
Mouindo Nzangi, député national, élu de Goma et Butembo Nord Kivu. Vous êtes cadre du parti politique MS, membre de la coalition Lamuka. Doit-on célébrer cette journée en RDC?
En tout cas, le Congo ne peut pas célébrer cette journée. Je crois que les tableaux sombres que vous venez de nous peindre tout à l'heure, pour ce qui s'est passé aujourd'hui à Oïcha, à Mbaou, et ce qui s'est passé à Bounia, nous démontre en suffisance que la République démocratique du Congo a vraiment raté le processus de paix. Et je voudrais ici présenter donc mes condoléances à toutes les familles qui ont été éprouvées à Mbaou et à Beni. Je voudrais aussi continuer à demander à la population de Bounia, du Sud Kivu, de Masisi, de Walikale, où on signale encore ce matin des affrontements entre les FARDC et certains éléments de Guidon. Tous ces gens-là, je leur dis, en tout cas, ils doivent continuer à espérer que demain on aura un Congo beaucoup plus meilleur. Je voudrais également dire que la journée internationale de la paix aujourd'hui, dans ce pays où nous avons la MONUSCO, c'est aussi un défi pour la communauté internationale qui n'a pas réussi, malgré tous les mandats possibles obtenu par la MONUSCO, qui n'a pas réussi à imposer un processus de paix à l'est de la République démocratique du Congo. Je vais entrer dans le vif du sujet à dire une telle chose. Le problème que nous avons à l'est du pays, c'est qu'il n'y a pas encore eu une volonté politique réelle de mettre fin à la guerre et à l'insécurité à l'est du pays.
Qu'est-ce qui vous fait dire
tout
ça?
Tout ce qu'on nous raconte, tout ce que les gens disent, ce sont que des slogans pillés, mais en réalité, il n'y a pas encore une volonté réelle de mettre fin à cette situation. Pourquoi je le dis? La première chose, lorsqu'on a la volonté de mettre fin à une guerre ou à une insécurité devenue chronique, on concentre les moyens sur l'armée. Puisqu'il n'y a que l'armée qui peut rétablir durablement une sécurité dans une zone.
Mais c'est ce qui est fait, c'est ce qui a toujours été fait.
Ça n'a jamais été fait correctement, je vais vous le démontrer. Tout ce qui se fait, c'est du saupoudrage. Il a été lancé à Beni l'année passée une opération dite d'envergure. Aujourd'hui, posez-vous la question, l'opération d'envergure pour laquelle 20 généraux ont quitté Kinshasa se sont installés à Beni. Quel en a été le bilan? On nous a dit que les EDF étaient déjà neutralisés. Aujourd'hui, le terrain nous demande qu'il n'est au contraire. Mais je l'ai dit franchement, je suis député de l'opposition. Les militaires qui sont au front aujourd'hui, ça fait 3 mois à Beni, les gens n'ont pas mangé. Il n'y a que seulement 2 jours ici qu'ils viennent de recevoir la ration de 1 mois. Est-ce que vraiment, si on a la volonté de mettre fin à une guerre, on peut abandonner des militaires sur les fronts et ne pas leur donner la nourriture à manger? La volonté n'y est pas. Et si vous voulez que j'aille trop loin, l'honorable Juvenal Mounoubo, que je salue à passant, a dit de parler du processus de réforme raté, mais pourquoi la réforme de l'armée n'a pas réussi? Puisque la volonté de réformer l'armée n'a jamais été là. Les gens ont voulu toujours rester avec une armée politique, une armée politisée, une armée qui contrôle, une armée qui les sécurise, et au lieu de sécuriser les Congolais. Comment ça peut être admissible que vous puissiez avoir une armée où les colonels, les généraux, les majors, les lieutenants sont plus nombreux que les hommes des troupes, mais qui vont aller combattre une armée où on ne connaît même pas l'effectif réel des militaires?
le chef de l'État est arrivé à Beni où il a annoncé qu'il y avait 21 000 militaires. Mais allez-y voir, les 22 000 militaires n'existent pas. Il y a des bataillons et qui devraient avoir autant de militaires, 800 ou 900, mais qui annoncent à 120 aujourd'hui. Les attaques de Beni ont démontré, par exemple, le jour où il attaque à Eringeti, où le village qui devrait avoir 150 militaires, il n'y avait que 12 militaires. Tout ce désordre-là, c'est puisque la volonté politique de mettre de l'ordre au niveau de l'armée n'y est pas. Et deuxième chose...
Et cette situation profiterait à qui, Mouindo Zangui?
Et c'est ce que je voudrais vous dire, malheureusement, c'est que tout ce qui sort comme moyen et qui va s'y faire pour régler les questions de l'armée, ça n'arrive pas. L'argent est détourné. Il y a de l'impunité au niveau du secteur de la défense qui fait que les histoires de guerre sont devenues un business où les gens savent que lorsque ça s'agite à gauche, le gouvernement est obligé de sortir l'argent en urgence, mais cet argent n'arrive jamais sur le terrain. Les gens s'enrichissent sur le dos des gens qui, des autres, des pauvres Congolais qui sont en train de mourir. Donc je vous dis, à résumer, qu'il n'y a pas de sérieux dans cette façon de faire. Ça fait que les groupes armés, au lieu de se terminer, ils se dilatent. Hier, on parlait de 40, aujourd'hui, on est à 800. Il y a des entités tout entières comme à territoire de Walikale, des chefferies tout entières abandonnées, des secteurs abandonnés où il n'y a pas de militaires, où il n'y a que 2, 3, 4 projets de militaires pour une étendue plus grande que la République du Rwanda. C'est pour vous dire qu'il n'y a pas de sérieux dans le secteur de la défense. Nous avons espéré qu'avec le président Félix qui venait avec un discours, les choses allaient s'améliorer. Au contraire, maintenant, la situation est en train de devenir beaucoup plus ingérable qu'elle ne l'était avant. Et c'est pour cela qu'on dit effectivement que le pays aujourd'hui est en difficulté et nous croyons que les gens doivent se réveiller.
Merci.
Pour que la volonté politique accompagne des actions concrètes, qu'on réforme une vraie armée capable de nous protéger.
On espère, c'est Matumba, la liste pour la région des Grands Lacs. Au sein de International Crisis Group, il se change en sigle. C'est une organisation internationale qui étudie les conflits au niveau mondial. La Journée internationale de la paix, célébrée chaque année le 21 septembre, elle est dédiée à la paix et particulièrement à l'absence des guerres qui doit se manifester par un cessez-le-feu dans les zones de combat. En RDC, malheureusement, le pays fait face à plusieurs groupes armés nationaux et étrangers qui commettent des crimes et sèment l'insécurité dans sa partie est. Qu'est-ce qui bloque, selon vous, l'obtention de la paix dans l'est de la RDC, malgré tous les mécanismes utilisés, la diplomatie, la force? Pourquoi on n'arrive pas à obtenir la paix dans cette partie du pays?
Merci beaucoup pour la question, madame. Je salue en passant les deux jeunes co-débatteurs, les deux honorables Juvenal et Zangui. En fait, la question est complexe, hein? C'est vrai qu'on a développé un certain nombre de mécanismes pour répondre à la question de la présence de groupes armés à l'est de la République démocratique du Congo. Mais je crains que tous ces mécanismes soient partiels, soit incohérents. Je vais vous expliquer. Mes deux collègues, mes deux collaborateurs ou co-débatteurs ont tous insisté sur un aspect, c'est l'aspect militaire, comme réponse à un problème qui n'est pas que militaire. Le conflit qui se déroule à l'est de la RDC, c'est un conflit, en fait, les deux éléments que vous avez balancés concernent Beni, Ituri aussi, l'honorable Zangui a ajouté ce qui se passe à Orikale. Donc je dirais que là, ce sont les points qui sont chauds aujourd'hui ou qui l'étaient hier. Mais l'insécurité est permanente et ça, ça s'étend du nord de la province du Tanganyika jusqu'à l'Ituri. C'est toute la branche qui brûle, mais l'incendie peut ne pas être visible parce que ce n'est pas sous le feu de la rampe des journalistes. Bon, c'est vrai qu'il y a des problèmes structurels parfois liés au dysfonctionnement au sein de l'armée. L'honorable Zangui l'a dit, Mais est-ce que les problèmes qui se posent n'est que militaire? Est-ce qu'on peut résoudre les problèmes qui concernent des centaines de groupes armés à travers une réponse militaire? Sinon, combien de militaires faudrait-il engagés. Mais je pense que la première chose et la plus importante pour moi, en tout cas pour nous au sein de Crisis Group, c'est de dire qu'il faut vraiment faire une bonne analyse des acteurs et identifier les connexions qu'il y a derrière cette insécurité. Et nous, nous croyons qu'il y en a à trois niveaux. Donc, il y a trois échelles. Donc, il y a l'échelle locale, qui est l'échelle visible. Ce sont les jeunes qu'on voit armés, qui font la guerre à gauche, à droite, qui combattent les voisins, etc. Et qui travaillent au sein des communautés dont ils sont issus, qui partagent avec eux des véritables relations de sympathie, de connivence, de parrainage, etc. Mais ça, c'est la face visible de l'iceberg. Donc, et c'est ça, si nous voulons faire une réponse militaire, ce sont ces jeunes gens qu'on va essayer de maîtriser. Mais est-ce qu'on sait que derrière ces jeunes gens armés, beaucoup se bousculent, Codeco, je ne sais pas, Didon, etc. Est-ce qu'on sait que derrière, il y a une deuxième chaîne qui est constituée par les manipulateurs, ceux qui instrumentalisent là, et que j'appelle l'échelle nationale, ou disons provinciale, c'est-à-dire toute l'élite politique et économique, qui pour des intérêts extra-locaux, instrumentalise les conflits vraiment pour leurs propres intérêts. Ces gens, on les appelle publiquement des tireurs de ficelles. Mais il existe une véritable connivence, parce que même en parlant avec les victimes, tout le monde dit qu'il y a des tireurs de ficelles, on parle d'eux, mais on ne les cite jamais. Et ça, ça ne demande pas une réponse militaire, je m'excuse. Cette deuxième échelle mérite un autre type de réponse. Et enfin, la troisième échelle...
Quelle réponse, Honestor Sematumba?
Permettez-moi, je vais arriver aux réponses tout de suite.
D'accord.
L'échelle régionale, c'est la troisième, madame. L'échelle régionale, c'est que l'axe de l'insécurité que nous voyons partir de Bounia, de Beni, de Walikale, de Haut Plateau, de Minembwe, eh bien, cet axe que nous voyons se prolonge au-delà des frontières. Alors, il y a des intérêts économiques, des intérêts géostratégiques, des rivalités géopolitiques. Aussi, du Sud-Kivu, qui ne sait pas qu'il s'y livre ce qu'on appelle une rivière par procuration des puissances régionales qui se font la guerre à travers la première échelle, le premier niveau. C'est-à-dire, on voit des groupes armés qui se battent, mais on sait que derrière, c'est supporté par des puissances régionales. À ce niveau, qu'est-ce que vous voulez que l'armée congolaise seule puisse faire? Donc, si nous avons compris les trois niveaux ou les trois échelles de conflits que nous croyons être des petits conflits localisés, et bien nous avons trouvé une réponse adéquate. Et qu'est-ce que nous proposons? Par exemple, pour la première échelle, mais c'est facile. C'est facile apparemment, mais c'est très cher. C'est-à-dire, il faut commencer par convaincre ces jeunes à déposer les armes, en répondant à leur, aux causes de leur enrôlement, la pauvreté, le manque d'alternatives. Ça signifie que le gouvernement, parce qu'il n'y a que le gouvernement qui puisse le faire, devrait mobiliser toute la communauté internationale qui fait aujourd'hui la journée mondiale de la paix pour que cette communauté internationale mette des moyens importants pour mettre en place des structures de formation. Il n'y a pas de petits camps de transit, mais des structures qui vont permettre à ces jeunes de sortir avec des moyens pacifiques pouvant leur permettre de gagner leur vie.
On est forcé, Matumba. Il y a des auditeurs qui sont nombreux à appeler. On va prendre quelques auditeurs et puis on va revenir vers vous. Je vais là, Lomulubo, on va prendre pour vous cet auditeur qui nous appelle depuis Goma.
Alain Chirouluire, je vous appelle à partir de la ville de Goma. Cette journée doit interpeller la conscience de tous, plus particulièrement le gouvernement qui a le devoir de sécuriser le peuple et comprendre que la paix est une nécessité et pas une question à prendre à la légère. Vu la situation actuelle où l'est du pays est en proie, cette journée était non événement du point de vue festivité, mais une grande occasion pour l'État de faire un état des lieux de ce qui est fait et ce qui reste à faire. Et pour que la paix revienne, l'État doit bien encadrer nos FRDC, créer de l'emploi, éviter surtout de promouvoir les gens qui ont longtemps endeuillé le pays, mais plutôt les punir afin que cela soit une leçon pour ceux qui rêvent faire la même chose. Merci.
Alors je vais ajouter pour vous, Juvenal Mounoubo, cette autre réaction qui nous vient de Kananga au Kasaï central. C'est Norbert Dibelay qui nous écrit, il dit ceci, la situation que vivent nos frères de la partie est du pays est préoccupante avec l'insécurité grandissante qui se passe et la multiplicité de plusieurs groupes armés sous l'œil impuissant de nos autorités qui ont complètement oublié que la mission primordiale de tout gouvernement responsable est de sécuriser la population et ses biens. Pour mettre fin complètement à ce fléau, je suggère au gouvernement une implication ferme du pouvoir de Kinshasa afin d'éradiquer tous ces groupes armés qui viennent semer terreur et désolation au sein de notre population et imposer l'autorité de l'État dans cette partie du pays. Enlever en tête que pour une paix durable à l'est du pays, cela doit passer nécessairement par une amnistie et pourtant, vu les graves crimes commis par ces groupes armés, il fallait tout simplement les mettre à la disposition de la justice internationale. Car qui dit amnistie, c'est comme si les faits n'ont jamais existé, comme l'avait si bien rappelé la chef de la MONUSCO dernièrement. Juvenal Mounoubo.
Oui, je suis d'accord avec les auditeurs, que ce soit Alain, que ce soit Norbert, et on comprend bien que les Congolais, qu'ils soient du Kasaï ou de l'Est, de l'Équateur ou du Katanga, d'un peu partout, ont presque la même perception de ce qui s'est passé. Il faut que l'État soit un peu plus fort. Il faut que l'autorité de l'État soit rétablie, se restaure dans l'ensemble du territoire national. Les gens, ils sont presque tous unanimes qu'il faut renforcer les moyens pour les FRDC. Le gouvernement doit mobiliser davantage et prévoir des allocations conséquentes pour l'armée. Nous y reviendrons au cours de cette session parlementaire qui commence de septembre. Et donc, je suis à 100% d'accord avec eux. Et je voudrais ici, de manière particulière, appeler les groupes armés encore actifs à Walikale à déposer les armes, que ce soit le MDFR Guidon, que ce soit l'autre groupe des Bouira, parce que les combats, les affrontements, la lutte maintenant qu'ils mènent actuellement, ça n'a aucune importance par rapport à l'intérêt de la population. Au départ, ils disaient vouloir poursuivre les FDLR, mais ce n'est pas ça la lutte pour le moment. On voit bien qu'ils sont dans leurs intérêts partisans. Et donc, un individuel égoïste. Et donc, ils doivent tous déposer les armes. Ça, c'est ma position en tant qu'élu du territoire de Walikale.
Il y a cette question aussi sur l'amnistie, Maître Juvenal Mounoubo.
Alors, je crois qu'on doit être clair. Ce qui affaiblit aussi les processus de réforme de l'armée, c'est le fait qu'on a négocié avec des groupes armés. Il y a des personnes qui n'ont pas un niveau élevé, mais qui se retrouvent général. Il y a des généraux comme ça. Ça fait comme une sorte pyramide renversée. Moi, je crois qu'il faut à un moment donné arrêter des négociations avec des groupes armés. Mais par contre, il faut encourager les DDR parce qu'il n'y a pas assez de progrès dans la réintégration dans la vie civile des ex-combattants. Prenez le cas des Bounia. J'étais à Bounia, il y a les Codeco qui sont regroupés tout près de Bounia. Ils ont d'ailleurs fait une incursion pas plus tard qu'il y a 2 semaines, je crois, sur Bounia même. Et donc, il y a les FRPI, il y a un accord qui a été signé avec eux. Ce qu'il faut faire, il faut assurer le retour à la vie civile de ces ex-miliciens. Mais il ne faut pas négocier pour l'octroi des grades. C'est ce qui affaiblit aussi les processus de réforme de nos forces armées. Donc il faut une nette différenciation entre la négociation avec les groupes armés pour une intégration dans les structures de l'armée. Ça, je crois, il faut décourager. Mais ce qu'il faut encourager, c'est les DDR, mobiliser des moyens pour les DDR. Il faut bien organiser les DDR avec des filières de réinsertion. Il faut savoir ces ex-miliciens, ils deviennent qui dans la vie civile. Il faut qu'ils deviennent utiles dans la société et qu'ils ne soient plus tentés de prendre les armes. C'est à ce niveau-là qu'il y a des faiblesses parce qu'il y a eu plusieurs programmes DDR depuis 2004, mais ces programmes se sont soldés par un échec. Alors, autre chose, il faut voir d'une manière globale la situation socio-économique. C'est difficile de consolider la paix lorsqu'il n'y a pas de route. Hein, vous voyez par exemple, pour quitter Goma, arriver à Walikale, vous faites 2 jours, 2 jours et demi Il n'y a pas que sur cette axe, même dans la partie nord du Nord Kivu, il n'y a quasiment pas de routes. C'est difficile de penser développement. Il n'y a pas beaucoup d'espoir, il n'y a pas beaucoup de perspectives parce que le développement commence par la route. Et lorsqu'il n'y a pas de projets de stabilisation, des projets de consolidation de la paix, comme les réhabilitations des routes, les sources d'énergie, des projets d'encadrement des jeunes, ça va être difficile. Lorsque le chômage continue, ça va être difficile de consolider la paix. Et donc, je suis d'accord avec Onesfor. Je suis vraiment en partie d'accord avec lui. La solution n'est pas que militaire. Hein. Il faut voir dans l'ensemble de la société où est-ce qu'on peut travailler, sur quel autre axe. Il y a la question de l'exploitation minière aussi. Il faut vraiment y réfléchir parce qu'on ne sait pas comprendre partout où il y a des minerais, là où il y a, se cristallisent les groupes armés. Et donc, à ce niveau-là, il faut travailler également sur... Et il faut travailler vraiment sur l'exploitation minière, il faut de la traçabilité, beaucoup de lumière, et qu'on sache les minerais sont exploités où, ça passe par quelles mains, et éviter que les groupes armés soient des interfaces par rapport à l'exploitation minière. Merci. Et donc ça aussi, c'est une solution pour asseoir la paix. Mais il faut reconnaître que, il faut savoir que le défi est énorme, mais il faut pas afficher une certaine pessimisme.
Votre ligne est en train de se dégrader, Juvenal Munubo. Votre ligne est en train de se dégrader.
Il essaie de montrer que on est dans l'échec. Mais évidemment, lui aussi, en tant que leader, je crois qu'il faut qu'il contribue aussi à la paix. Nous tous, d'ailleurs, non? Nous devons contribuer à la paix. Parce que ce qui est important, c'est de demander à nos populations de prêter main forte aussi aux forces de sécurité. Et donc, il ne faut pas qu'on donne l'impression qu'on est dans une situation où on ne peut plus se relever. Je crois qu'il faut rester un peu, il faut garder un peu d'optimisme. Et de considérer que ce n'est pas une fatalité, la solution, elle viendra, mais ça demande l'implication de tout le monde, et pas que du gouvernement. Les leaders ont un grand rôle à jouer, nous les députés, nous avons un grand rôle à jouer en tant que faiseurs d'opinion.
Merci.
Et je crois qu'il faut rester un tout petit peu optimiste, et de penser qu'on arrivera à restaurer la paix dans toute la partie est du pays.
Mouindo Nzangi, on va prendre aussi pour vous cet auditeur qui nous appelle depuis Kinshasa.
Théophile Okake, depuis la ville de Kinshasa. Pour instaurer la paix durable dans l'est de la RDC, premièrement, nos autorités doivent s'acquitter avec les accords signés. Sinon, l'est de la RDC sera toujours en insécurité durable. D'aider, le gouvernement doit installer un quartier de FARDC conscient et soucieux du pays dans cette partie. Changer les anciens commandants et généraux. Nous savons tous que l'ennemi des Congolais est Congolais lui-même. Nous devons changer les mentalités pour bâtir un Congo fort et solide.
Oui, non, Nangui.
Je crois qu'il a raison et je le soutiens lorsqu'il dit que l'armée doit être déployée de manière permanente du côté de l'Est pour assurer les choses qu'ils doivent être dotés de moyens. Là où je ne suis pas un peu d'accord avec ce que Onesfor a dit, il faut regarder beaucoup plus les questions non militaires par rapport aux questions militaires. Je crois non. Cela a déjà été tenté. Vous savez que après l'accord de San City, il y a eu le brassage. On a cru que tous les groupes armés avaient quitté la forêt. Et puis après, l'autre groupe se sont créés. En 2008-2009, on a signé les accords de Goma, les accords du 23 mars avec les groupes armés. Mais après, quand ils sont sortis, les autres sont restés en dernier lieu. Je crois que ce qu'on doit retenir, c'est la dissuasion militaire. Tant que le gouvernement n'a pas une capacité de neutraliser, qu'il fasse peur, il y aura toujours les groupes armés. Nous sommes un pays des minerais, un pays très vaste, qui a des minerais qu'on peut ramasser partout. Il y aura toujours des gens qui auront besoin de les prendre par la force. Les voisins qui sont omnibulés par les intérêts économique à la frontière pour que les minerais arrivent au Rwanda, à l'Ouganda, qui sont devenus premiers producteurs de coltan, de l'or, ainsi de suite. Ils auront toujours besoin de ces minerais-là. Il y aura toujours des groupes mafieux qui chercheront à prendre ces minerais par la force. Mais la seule façon pour nous de mettre fin à ça, c'est d'avoir une armée forte, capable d'imposer une dissuasion qui puisse empêcher à ces gens de pouvoir faire toute tentative. La deuxième république, le président Mobutu, avait réussi à mettre en place une armée dissuasive et personne ne pouvait s'aventurer en RDC puisqu'il savait que la riposte était immédiate. C'est ça qu'il faut construire. Mais tout ce qu'on est en train de faire, c'est des petits raccourcis qui ne sont pas sérieux puisqu'on essaie seulement d'aller là où ça tire aujourd'hui, ça tire demain, mais ça couvre partout au secteur de sécurité. Mais là, dans les villes, au niveau de Beni, de Butembo, de Goma, les sécurités urbaines, la police est dans les mêmes conditions que l'armée. Donc, on ne peut pas rétablir la paix si on n'a pas une armée capable de se battre. Et c'est pour cela que je voudrais d'ailleurs parler à renforcer ce que l'honorable général Mouloubo a dit.
Je me résume
tout ce qui se passe à Bounia. Le gouvernement a signé des accords avec des groupes, comme FRPI. Il les cantonne. Mais le gouvernement lui-même n'est même pas capable de les assurer la nourriture avant leur réinsertion. Il y a des gens aujourd'hui qui sont à Moubambiro, au nord que vous. Il y en a d'autres qui ont été démobilisés dans des groupes armés, mais que le gouvernement ne sait même, ou le gouvernement ne sait même pas envoyer la nourriture. Vous comprenez, on ne prend pas ça au sérieux. On ne prend pas la question de la sécurité au sérieux. Et c'est ça qui veut, alors que si on prend cette question au sérieux, il est possible que nous puissions ramener la paix. Merci beaucoup.
On est sort, c'est Matumba. On va prendre aussi pour vous cet auditeur qui nous appelle de Bukavu.
Robert Mahomé de Bukavu au sud Kivu. C'est bien de célébrer la journée internationale de la paix en ce jour du lundi 21 septembre courant. Je pense qu'au niveau de la RDC, le gouvernement congolais semble échouer dans sa mission d'instaurer une paix durable à l'Est. Pour ce faire, pour bien célébrer la journée internationale de la paix, c'est le moment propice et opportun que la communauté internationale se mette réellement ensemble, se mobilise pour pouvoir aider la RDC à en finir une fois pour toutes avec les hostilités, les conflits qui la déstabilisent sérieusement dans sa partie orientale. Ainsi, cette journée aurait tout son sens.
Mon espoir, c'est Matumba. Comment vous répondez à Robert Baomé qui nous a appelé depuis Bukavu et qu'est-ce que vous proposez pour instaurer une paix durable dans l'Est de la RDC?
Merci beaucoup. Je suis tout à fait d'avis avec Robert et c'est ce que j'avais dit dans ma première intervention que la communauté internationale devait se mobiliser, mais j'ai dit, il faut que notre gouvernement, le gouvernement congolais, mobilise la communauté internationale pour qu'elle puisse accompagner les efforts du gouvernement pour ramener une paix durable à l'est de la République démocratique du Congo. Et j'en profite pour réagir à ce que disait mon ami, l'honorable Jean. En fait, je n'ai pas dit qu'il ne faudrait pas une réponse militaire. J'ai dit qu'une réponse exclusivement militaire ne peut pas aboutir à une paix durable. Notamment, à cause de tout ce que l'honorable Gandhi même dit, il dit la seule façon pour arriver à une paix durable, c'est d'avoir une armée bien formée, etc. Mais avoir une armée, c'est tout un processus. Donc, il faut beaucoup de moyens pour construire une armée dissuasive. Donc, malheureusement, avec tout ce que nous avons dit depuis le début, ça ne semble pas être le cas. Mais alors, en attendant, je dis, eh bien, il y a des efforts militaires à faire pour dissuader, mais il y a d'autres stratégies à mettre en place, notamment donc, avec ce que notre ami Robert Dussic qui vous dit, et de mobiliser la communauté internationale pour qu'elle intervienne à ce qu'on trouve des réponses durables, pas juste aller éteindre certains petits feux de bruche qui sont à Bounia, à Walikale, à Beni, etc. Il faut vraiment une stratégie cohérente de sortie de conflit qui n'ont pas de sens. On ne s'en sortirait jamais.
Alors, on va prendre quelques réactions qui nous parviennent. Espoir Mugabo, Sud Kivu, la création des groupes armés au pays, le fruit de l'instabilité politique, de la volonté des leaders politiques à vouloir exploiter les minerais dans les zones en conflit actuellement au Sud Kivu, alors que la situation politique devient de plus en plus inquiétante, associée à la découverte des gisements d'or, on signale déjà la création d'un groupe dénommé République du Kivu. Ce qui importe ici est d'avoir un regard critique sur les événements politiques du pays, avec un focus sur les leaders politiques pour voir dans quelle mesure on peut résoudre les problèmes d'insécurité dans la partie est de la RDC. José Kazadi Malou, sur le plan politique, après plusieurs années de dialogue avec les groupes armés, il n'y a pas eu de solution pour instaurer la paix en RDC. La diplomatie a échoué à tous les niveaux. Pour moi, l'option de la force doit être entreprise. Patrick Rouvalet, depuis Bounia, pour une paix durable dans la partie est de la RDC, l'État doit surveiller les frontières dans la partie est du pays, car nos frontières sont tellement poreuses qui permettent l'intrusion des armées qui déstabilisent ce coin du pays, mais aussi la prise de conscience des communautés qui vivent à l'est du pays. Maître Juvenal Mounoubo, nous sommes presque à la fin de notre émission. Votre conclusion en ce jour où le monde célèbre la Journée internationale de la paix.
Alors, je pense qu'il faut que la population, en dépit de toutes ces souffrances atroces, il faut garder un peu d'optimisme et savoir que la paix sera trouvée. Et alors, céder au pessimisme, c'est au fait accueillir aussi, ouvrir davantage les fissures de la balkanisation. Et le gouvernement, l'Assemblée nationale a opté pour un travail ensemble avec le gouvernement, donc c'est prévu très prochainement une tournée à l'Est, l'occasion d'écouter la population, échanger avec elle, écouter les responsables de sécurité, parler avec eux et voir dans quelle mesure proposer des solutions durables. Donc très prochainement, on va devoir aller vers la population sur les lignes de front, et écouter, parler avec les gens. Je crois que la solution, elle est militaire. Il faut changer les commandements. Quand un commandement ne donne plus des résultats, je crois qu'il faut changer. Mais aussi, il faut les aider. Hein. Il faut encadrer dans la vie civile tous ces éléments regroupés, que ce soit au Nord Kivu, à Ituri ou au Sud Kivu. Et je pense aussi qu'il faut assurer la traçabilité des minerais. Il faut réhabiliter et construire des routes, parce que la route chasse l'insécurité, on ne le dira jamais.
Vous l'avez déjà dit, Juvenal Mounoubo, il faut conclure.
Je pense aussi, je vais conclure en disant que la MONUSCO devrait se montrer aussi plus proactive. Je crois qu'il faut retenter l'expérience contre le M23 avec la brigade d'intervention. Et il faut bien planifier les opérations FRDC MONUSCO. Je crois que c'est possible. Comme on a vaincu le M23, il faut des opérations comme ça qui bénéficient aussi de l'appui de la population. Et si on les planifie, s'il y a cette collaboration aussi, je crois, il y a moyen d'arriver à des bons résultats.
Merci, Maître Juvenal Mounoubo, Mouindo Ntsangui, votre conclusion.
Oui, je crois que l'absence de la paix à la République démocratique du Congo que nous sommes en train de pleurer aujourd'hui, c'est partagé entre nous et la communauté internationale qui est quand même présente ici avec une force la plus importante des Nations Unies au monde. Je crois que nous partageons cet échec et cet échec-là doit nous interpeller, nous tous. C'est une journée d'interpellation pour les Congolais et pour la communauté internationale pour voir comment repenser les stratégies pour imposer une paix durable à l'est de la République démocratique du Congo. Je voudrais donc continuer à insister que nous ne pouvons pas nous assortir si nous ne construisons pas une armée capable d'imposer la paix et de faire une dissuasion permanente pour que les aventuriers ne sortent de nulle part pour venir faire ce qu'ils veulent à la République démocratique du Congo.
Merci. On espère, c'est Matumba. En 30 secondes, votre conclusion.
Eh bien, merci. Ma conclusion est, bon, je vais répondre sur ce que disait le marabout. J'ai envie de dire, le gouvernement, évidemment, a dans ses obligations de construire une armée qui serait dissuasive de ce processus. On ne construit pas une armée comme ça à pied léger. Et dans ce sens, avec la MONUSCO qui est là, pourrait peut-être préparer sa sortie de la RDC en essayant de transmettre beaucoup plus de compétences à l'armée nationale, mais surtout, j'insiste que le gouvernement devrait mobiliser sa coopération bilatérale et les bailleurs multilatéraux pour qu'on puisse trouver des solutions durables, notamment qui répondent aux défis de pauvreté et à tous les autres défis socio-économiques qui sont entre autres à la base de la déliquescence et de la sécurité à l'est de la République démocratique du Congo.
Merci, on espère, c'est Matumba. Le dialogue entre Congolais, c'est fini pour ce soir. Merci également à toute l'équipe de Dialogue entre Congolais qui m'a aidé à préparer cette émission. Guimaté, Dona Madimba, sous la supervision d'Axel Gonjo. Merci à Polydor Basunga qui est à la prise de son. Présentation et coordination, Kéline Couté. Bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.